carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
En parallèle de la représentation du Messie de Handel dans l'orchestration de Mozart jouée au Théâtre du Châtelet en mars 2011, le philosophe Benoît Chantre, qui signait la dramaturgie du spectacle, a proposé un colloque ouvert à tous sur le thème « Figure du Messie ». Quelle est l'actualité du Messie et de ce qu'il est convenu d'appeler le messianisme aujourd'hui ? Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de la communication d'un des intervenants prononcée le 15 mars 2011. Retrouvons dans les salons du théâtre Gilles Cantagrel, musicologue et correspondant dans la section composition musicale au sein de l'Académie des Beaux-Arts.
Je suis à la fois ravi d'être ici même dans le cadre de cette journée magnifique et un petit peu intimidé parce qu'après l'élévation de pensée et de réflexion qui a été le propre de cette matinée, nous allons retomber bien bas. Après la théologie et la philosophie, on va tomber dans les partitions. Alors c'est un petit peu prosaïque ou pedestrian puisqu'on est dans le monde britannique. Bon, je suis un petit peu ennuyé de cela pour vous. Bien sûr, j'en profite pour dire que la fameuse rencontre mythique du jeune Bach et du vieux Buxtehude à Lübeck, qui a bien eu lieu, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'histoire de fille, parce que Mademoiselle Buxtehude a marié, était déjà fiancée, et que Bach était déjà fiancé. Donc c'est une légende qui s'est forgée autour de cette rencontre, comme Handel avec le Messie a suscité beaucoup de légendes, et notamment celle-ci, vous savez qu'il a écrit l'œuvre en 24 jours seulement, je dirais presque sur un coin de table, dans un état d'exaltation qui ne fait aucun doute chez cet homme d'une foi très profondément enracinée. Mais on nous dit qu'il est un moment, après avoir écrit l'Alléluia, il est arrivé en larmes près de son vieux serviteur en lui disant « C'est comme si le ciel s'était ouvert devant moi et j'ai vu Dieu apparaître dans toute sa majesté ». Là, il faut se calmer un petit peu. Les légendes sont belles, mais parfois un peu trop belles pour être vraies. D'abord, pourquoi confronter, vous l'avez dit, Benoît, Bach et Handel? Ils sont exactement contemporains. Handel est né 4 semaines avant Bach et à environ 100 kilomètres de distance. Or, tout va les séparer. La carrière de Handel, comme nous le savons, qui va se dérouler dans la ville la plus peuplée de l'Europe, Londres, à l'époque, 1 million d'habitants. Et Bach, au contraire, qui va culminer dans sa carrière à Leipzig, 23 000 habitants quand il y arrive. Deux carrières de tempérament complètement opposés. Et pourtant, beaucoup de choses les rapprochent dans le domaine qui nous intéresse. Luthériens très convaincus tous les deux, hommes d'une foi très profonde, ils l'ont montré constamment. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Handel, qui a d'abord été en Italie, a refusé de se convertir au catholicisme, alors que d'autres l'avaient fait, comme Jean Chrétien Bach un peu plus tard. Une fois en Angleterre, alors qu'il dialoguait d'égal à égal avec la reine d'Angleterre, qui était une Allemande, comme tous les rois et reines d'Angleterre d'ailleurs, après les Plantagenets, qui a été protégé de la reine Caroline, n'a jamais été anglican, il est resté protestant, luthérien, et il faisait ses dévotions dans l'église luthérienne avec même des marques extérieures, une extériorisation de sa foi, s'agenouillant, se couchant sur les sols, le sol priant avec les bras en croix, et donc il est profondément enraciné dans cette foi, ce qui est un petit peu étonnant parce que quand on voit la façon dont il a traité ce sujet que lui a donné Charles Jennens. Le Messie, en effet, est un oratorio, nous dit-on, alors qu'il n'y a pas de trame dramatique, narrative, donc c'est un anti-oratorio, et il est bien mal nommé, puisque en général, quand on nous parle de Siegfried, c'est que Siegfried va être le héros, Tristan et Isolde, que sais-je, ou Don Giovanni, et là, le Messie n'apparaît pas. Michel Serres l'a brillamment rappelé tout à l'heure. Donc déjà, en cela, le Messie est une œuvre atypique par rapport à l'oratorio de l'époque. C'est une œuvre qui marque une date dans la création chez Handel, puisque, comme vous le savez, il n'est pas arrivé à faire prendre à Londres la greffe de l'opéra Seria italien. Il y a travaillé 20 ans, il a perdu tout l'argent qu'il pouvait perdre, et la santé, peu avant, il a été frappé de paralysie, il est allé se faire traiter, prendre les eaux en Allemagne, retour aux sources, retour à sa foi luthérienne. Et quand il revient à Londres en 1739, il essaie à nouveau les deux derniers opéras, et puis ça tombe à plat complètement, et il décide d'abandonner à tout jamais le monde de l'opéra. Et c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers l'oratorio, avec déjà Saül, et puis Israël en Égypte, de grands oratorios qui ont là enfin un grand succès. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je fais un petit rappel historique qui n'est peut-être pas apparu très clairement dans la matinée, il se trouve qu'à ce moment-là, le Lord Lieutenant qui commande l'Irlande, qui fait partie du Royaume-Uni, lui demande de venir pour donner des concerts à Dublin, au profit d'œuvres charitables, parce qu'il connaît la notoriété tout de même du musicien Handel, et lui commande un oratorio. Et Handel, lui, va s'adresser à Charles Jennens, qui est poète et féru de théologie, qui va bâtir ce livret qui n'en est pas un, qui est un montage, simplement, comme on le sait, de textes tirés principalement de l'Ancien Testament et aussi, bien sûr, du Nouveau Testament, puisqu'il s'agit en principe du Messie. Et c'est donc cela qui va mettre en musique, et je ne dirais pas en s'en débarrassant, mais un petit peu sur un coin de table, 24 jours en tout et pour tout pour composer le Messie. Alors quand on voit, j'ai vu à la British Library à Londres le manuscrit du Messie qui est exposé dans une vitrine, c'est très impressionnant parce que c'est plein de ratures, de taches, on sent la précipitation, la hâte, et c'est une œuvre qui est évidemment géniale, mais il y a une espèce de fulgurance dans cette création, une œuvre longue en plus, 24 jours seulement. Donc, je le disais, emprunt à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, bien entendu, il n'y a pas de narration, il y a un tout petit extrait de texte évangélique de Saint Luc sur « Alors les bergers qui paissaient, bon, à ce moment-là, bon, ils ont la vision de l'ange », c'est le seul petit, tout petit, minuscule fragment évangélique dans tout le Messie. Le Messie lui-même n'apparaît pas. Et il y a d'autres choses qui singularisent encore cette œuvre par rapport à tout ce que va faire Handel par la suite. Tous ces oratorios sont en anglais, comme l'est le Messie, tous empruntent leur texte à l'Ancien Testament, que ce soit Salomon, Saül, Samson, Israël en Égypte, que sais-je, enfin, une magnifique brochette d'oratorio avec chaque fois de la passion, des combats, de l'amour, de la haine, que sais-je, de la vengeance, enfin, beaucoup d'actions, des personnages. Là, il n'y a aucun personnage. Le seul personnage identifiable, c'est la fille de Sion, qui en fait personnifie l'Église, ce qui est un petit peu abstrait quand même pour un opéra, pour un oratorio. Donc là, pas de narration, mais des chœurs très importants, beaucoup plus que dans les opéras et dans les oratorios de l'époque. À part Israël en Égypte, une grande quantité de chœurs, et de chœurs, je le redirai tout à l'heure, massifs, très éloquents, impressionnants, comme de grands piliers qui impressionnaient tellement Beethoven, notamment, pour qui le Messie était une œuvre de référence. Alors maintenant, voyons un petit peu par rapport à Jean-Sébastien Bach, je le disais parce qu'ils sont contemporains, que Bach a lui aussi écrit des oratorios. On nous dit toujours quel dommage que Bach n'ait pas écrit d'opéra. Moi, je pense qu'il n'a pas arrêté d'écrire des opéras. Quand on regarde de près les cantates, là, je viens de passer 3 ans du matin au soir dans les partitions des cantates. Les airs des cantates sont des airs d'opéra, littéralement. Quand on voit la tempête sur le lac de Tibériade, la crainte des malheureux disciples qui sont dans la barque, Jésus qui se dresse sur la barque et qui apaise les flots et qui leur dit « Mais homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur puisque je suis avec vous ?» Mais nous sommes totalement dans un acte d'opéra. Je ne parle même pas des cantates profanes qui étaient nommément drama per musica des actes d'opéra. Mais il a la veine opératique. Seulement, imaginons un seul instant que Bach ait pu s'intéresser aux amours de Cléopâtre ou d'Alexandre aux Indes. C'est insensé, ça n'a pas de bon sens, comme on dit au Québec. Mais non, donc il a, lui, choisi le drame par excellence qui est, pour un chrétien, le drame du calvaire, le drame du Golgotha, le drame de la passion du Christ. Alors là, il écrit un opéra. Or, Handel, lui, a écrit beaucoup d'opéras et on va être amené à confronter, évidemment, le langage d'opéra de l'un et de l'autre. Et l'issue du combat n'est pas forcément celle que l'on peut prévoir. Mais je dirais une première chose qui, moi, me surprend beaucoup, le Messie, que Handel lui-même a appelé oratorio sacré. Sacré, peut-être parce qu'il y a le Nouveau Testament, lui seul, médite sur le Nouveau Testament. Eh bien, ce divertissement, comme on l'appelait à l'époque, le Messie, a été donné pour la première fois à Dublin, je le disais, dans une salle de concert. Les toutes premières salles de concert qui existaient en Europe, en Angleterre, et c'était au New Music Hall de Dublin. A été donné avec un succès fracassant et a été redonné, donc une deuxième fois, plus une générale publique. Et ensuite, après le départ de Handel, a continué à être exécuté régulièrement à Dublin dans une salle de concert. Et quand Handel va vouloir faire jouer le Messie à Londres l'année suivante, en 1743, trois auditions en tout et pour tout, avec une indifférence générale, un bide, comme on dit, dans le milieu. L'année suivante, pas de Messie. L'année suivante, deux exécutions. Il faut attendre plusieurs années. Or, je constate que quand il est donné à Londres, c'est dans une salle de théâtre, le théâtre royal du jardin du couvent, Covent Garden. C'est là qu'on donne le Messie. Et quand on ne le donne pas à Covent Garden, on le donne au théâtre de Haymarket, où il y avait l'opéra de la noblesse, donc encore une salle d'opéra. Et il faut attendre 1749, donc déjà pas mal d'années. Handel n'est plus un jeune homme, déjà, et on le donne, il a 54 ans, et on le donne à l'hospice des enfants trouvés, le Foundling Hospital, dont s'occupe Handel. Lui, le célibataire, qui n'a pas eu de descendance, qui n'a pas eu d'enfant, va protéger sa nièce à Hambourg et les enfants trouvés de la ville de Londres. Il va donc exiger que ne pas publier le Messie en partition pour en garder l'exclusivité, le diriger lui-même et exiger de tous ses solistes, des artistes des chœurs, des instrumentistes, qu'ils jouent gratuitement pour verser le total bénéfice de la soirée à l'hospice des enfants trouvés, dont il sera d'ailleurs nommé plus tard gouverneur, enfin administrateur honoraire. Donc, c'est généralement dans des salles de concert que l'on joue le Messie. D'ailleurs, on en fait aujourd'hui une montagne, et en effet, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Mais je le disais, il a écrit ça à la hâte, sur un coin de table, ou presque, sans un instant imaginer que cette œuvre aurait la valeur emblématique qu'elle a eue, et devenir presque un hymne national pour l'Angleterre musicale, en tout cas. À tel point que, nous le savons, on a joué le Messie avec des effectifs croissants. Pour les 25 ans de la mort de Handel, il y a déjà 550 exécutants. Alors nous qui aimons, ou peut-être nous parlons de la musique baroque avec un chanteur par partie et un musicien par pupitre, 550 exécutants. Pour le centenaire de la mort de Handel, donc en 1859 à Londres, au Crystal Palace, 3500 exécutants. Et pour le bicentenaire de sa naissance, en 1885, 4500 exécutants. Je ne sais pas très bien à quoi ça pouvait ressembler, d'ailleurs. Je vois Jean-François Zigel qui sourit. En effet, on peut sourire. Et il n'avait pas un instant l'idée que cela pourrait devenir un tel monument, mais surtout, ce qui le différencie, là, très nettement, encore une fois, de Jean-Sébastien Bach, son contemporain, c'est que, à l'origine, le Messie est destiné à quelques solistes, des chœurs importants, je le disais, et uniquement un ensemble de cordes. Il n'y a pas de vent. Il y a une trompette solo pour le 12 juin dernier, l'appel de la trompette. Et c'est tout. Il n'y a pas de les hautbois, les bassons qui vont être ajoutés après. A fortiori par Mozart, donc la version Mozart qui est exécutée ici, mais c'est une œuvre très modeste, très simple, et donc une série de méditations, comme le veut le livret de Jenyns, donc une série de méditations, Michel Serres en a parlé, sur la mission rédemptrice du Christ, à cela près que le Christ n'apparaît pas. Pour quelle raison n'apparaît-il pas? Je n'ai jamais lu d'explication convaincante. Peut-être y avait-il quelque part un interdit. En effet, on ne prononce pas le nom de Dieu, il n'a même pas de nom. Dieu le Père, et quant au Christ, il n'est pas impossible qu'il y ait eu, au moins en droit coutumier, en droit oral, une espèce d'impossibilité à le faire représenter sur scène. Je ne dis même pas jouer en scène, mais au moins dans la musique. Bach, au contraire, est parfaitement à l'aise, et il utilise comme livret pour les deux passions, mais ce qui est vrai, l'oratorio de Noël aussi, et des deux autres, les petits oratorios de Pâques et de l'Ascension, il utilise l'Évangile. Et l'Évangile met en scène. L'Évangile est un récit d'un témoin oculaire, pour deux d'entre eux en tout cas, ou au moins de mémoire, pour les deux autres, d'un témoin qui va nous faire vivre les événements en lui. Et à ce moment-là, la femme de Pilate est venue et a dit que. Et ensuite, Pilate s'est adressé à la foule pour lui sommer de répondre à telle question. Que sais-je ? Donc, il saisit l'occasion et il écrit là, carrément, ce qu'il faut bien appeler un opéra sacré. Ce que ne fait pas du tout Haendel. Haendel nous propose un oratorio qui porte le nom de quelqu'un qu'on ne voit jamais et où il n'y a pas de personnage. Et Bach fait exactement le contraire. Et quel livret, mon Dieu ! Mais il y a autre chose. C'est que quand on regarde bien la structure des œuvres chez l'un comme chez l'autre, Haendel s'arrange pour... Au fond, il y a des thèmes très précis dans la méditation que nous proposent Jennens et Haendel dans le Messie, dans les trois parties du Messie. Alors, il va une méditation sur tel sujet, sur la révolte des puissants de ce monde, sur la flagellation. Et en général, ça fait un récitatif, un air et un chœur. Il s'arrange pour qu'il y ait des petits blocs très identifiables, exactement comme Bach découpe musicalement le livret de la Passion. C'est-à-dire, il choisit un épisode, exactement dans l'ordre de Matthieu ou de Jean, il prend l'épisode et la tension monte jusqu'à un point où quelque chose doit éclater, quelque chose d'intolérable nous est représenté, que ce soit le Christ bafoué, par exemple, le Christ en croix. Et alors, tout d'un coup, cette décharge affective s'exprime dans des airs, avant que les chœurs n'interviennent. Les airs sont exactement ce que fait Haendel. Ce sont le lieu de la méditation sur le mystère dont on nous parle, dont Bach nous parle et dont Haendel ne parle même pas. On est censé le connaître. Et donc, il y a cette décharge affective avec toute une symbolique des voix, naturellement. Si c'est l'alto ou si c'est le ténor, ça veut dire des choses différentes. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'analyse de la chose. Et après quoi, on conclut chaque scène par un choral, qui est le propre, c'est le cantique de l'église luthérienne, comme vous le savez, et Haendel, lui, qui est luthérien, mais en milieu anglican, ne fait jamais allusion à un choral, sauf dans les deux derniers oratorios, et encore dans Jephté notamment, mais encore en filigrane. Mais il n'y a pas d'exécution de choral luthérien dans cet oratorio du Messie, alors qu'il y en a 16 dans la Passion selon saint Matthieu, et 13 ou 14, je crois, dans la Saint-Jean. Il y a une très forte teneur en choral. Pourquoi ? Parce que le choral, c'est ce cantique, expression intime de la foi du chrétien luthérien, que l'on chante déjà quand on est dans le ventre de sa mère ou à peu près, et qu'on chante toute sa vie, constamment, matin et soir à la maison, en famille, donc cantique qu'on chante en chœur, donc chorale, qu'on chante à l'école avant et après les cours, qu'on chante tout le temps à l'église, que même dans la rue, à la place de l'Angélus, on entend jouer par quatre trompettes ou quatre cornets, matin, midi et soir. Donc, il est profondément enraciné tout ce répertoire des chorales avec tous les textes dus aux plus grands poètes mystiques en général du XVIIe siècle et même déjà du XVIe, depuis le vieux Franck jusqu'à Paul Gerhardt, par exemple. Et donc, que tout luthérien, que tout fidèle, que tout auditeur qui a une immense culture religieuse, pour ne pas dire théologique, chose que nous avons complètement perdue, bon, nous sommes dans une autre époque, peut chanter, au moins mentalement. Ils sont trop difficiles, ils s'insèrent dans le déroulement d'une œuvre. Il n'est pas question de faire chanter aux auditeurs, aux fidèles, ils vont chanter avant ou après l'exécution, mais ils peuvent les chanter mentalement. Donc, ils sont appelés de la sorte à s'associer intimement comme témoins, eux aussi, du drame qui est en train de se dérouler en musique à nos oreilles, devant nous. Ce qui n'est absolument pas le cas du Messie, où là, on entend l'homme Haendel qui médite, et qui médite au nom de l'Église, mais c'est presque un oratorio philosophique, en tout cas théologique, sans aucun doute, et évidemment, sans action. Si je prends musicalement très rapidement, je dirais que les arias chez Haendel, à l'origine il y avait 4 arias da capo, ensuite il en a supprimé parce que c'est une partition qui a évolué, de même que les passions de Bach ont évolué. Il y a 5 versions de la Passion selon saint Jean, il y en a 2 de la saint Matthieu, mais il l'a fait jouer 4 fois, donc il a approfondi chaque fois, et pour lui c'était les œuvres essentielles. C'est pourquoi je tente ce parallèle difficile. Alors que Bach utilise très souvent l'aria da capo, l'aria reprise à l'italienne. Alors qu'on pourrait croire que Haendel, qui a vécu en Italie, qui a écrit pendant 20 ans ou 25 ans des opéras à l'italienne, en userait abondamment. C'est exactement le contraire qui se produit. Il y a chez Haendel, je le disais, une volontaire assaise dans le domaine du timbre instrumental. À l'origine, uniquement des cordes. Ensuite, étoffé, quand il vient à Covent Garden, bon, il commence à étoffer un petit peu sa substance et instrumentale, et en général par effet de masse. Et alors que Bach, au contraire, qui a une espèce de volupté du grain, du son instrumental, va utiliser d'abord une palette assez vaste avec des flûtes à bec, des flûtes traversières, des hautbois d'amour, des hautbois de chasse, des viols de gambe à côté des cordes, le luth dans la Saint-Jean, des viols de bras également dans la Saint-Jean, donc avec un raffinement extrême et chaque fois pour caractériser un affect particulier. Et Händel, qui Dieu sait, est dramatique et d'une intensité incroyable. Je pense par exemple au premier air d'alto de la deuxième partie, « He was despised and rejected », la méditation de l'alto devant le Christ flagellé. Comment cet homme qui a été rejeté par tout le monde, qui est là ensanglanté, c'est très bouleversant, mais il ne se sert pas du tout de la ritournelle instrumentale avec le, comment dirais-je, la sensualité que Bach y met. Donc, il y a quelque chose qui, finalement, est plus près du domaine de l'opéra chez Bach que chez Händel. Enfin, pour ce qui est des chœurs, il y a très peu de ce qu'on appelle les chœurs tourba, les chœurs de foule chez Händel. Il y en a deux, si je ne me trompe, alors que Bach, qui fait le casting, comme on dirait élégamment de nos jours, de la passion, va, chaque fois qu'il y a les disciples qui disent « Est-ce-moi, est-ce-moi » ou bien le peuple qui dit, qui crie « Barabbas » ou que sais-je, chaque fois faire des chœurs de foule extraordinairement sophistiqués d'ailleurs. Dans la Saint-Matthieu qui commence à l'institution de l'Eucharistie et à l'onction à Béthanie, même avant la Saint-Jean, dans la Saint-Matthieu, au moment du, juste avant l'institution de l'Eucharistie, quand il, le Christ dit « L'un de vous me trahira », les apôtres affolés disent « Mais est-ce que c'est moi ? C'est pas possible, est-ce que c'est moi ?» Et alors, il y a un peu un chœur qui doit durer trois mesures, et il y a un fugato, et il y a 11 questions. Bon, parce que le 12e, il le sait que c'est lui, Judas. Donc, il n'est pas dans le chœur. Il faut bien écouter, hein, il se passe beaucoup de choses dans la musique. Il y a donc un petit fugato avec 11 entrées. Et ensuite, il y a un choral qui dit « Mais au fond, c'est moi le coupable. » moi le chrétien de l'Église universelle, le coupable c'est moi, parce que je n'ai pas cru, parce que j'ai renié mon rédempteur. Vous voyez, il y a donc plusieurs plans pour créer une dramaturgie. Et là, le rôle des chorales, je le disais, est essentiel. Il incarne la méditation collective, c'est-à-dire que les fidèles, les auditeurs, ne sont pas comme au concert, et ils sont des participants, à leur façon, de façon peut-être sublimée, mentale, mais ils sont des participants à leur attitude complètement différente à celle de Händel, qui est plus un homme de théâtre. Je finis, cher Benoît, en évoquant, si vous voulez bien, un petit peu la fortune posthume de ses œuvres. J'ai déjà dit que le Messie allait connaître une gloire gigantesque, et c'est au fond à peu près la seule œuvre, sauf erreur de ma part, à part peut-être un concerto pour orgue, un concerto grosso de ci, de là, mais qui a survécu. On nous dit toujours que Jean-Sébastien Bach était tombé dans un profond oubli après sa mort. C'est exactement le contraire qui s'est passé quand on regarde ce qui, bon, exactement les textes. C'est-à-dire que Händel a disparu, sauf le Messie. Le Messie, et puis peut-être l'harmonieux forgeron. Bon, mais c'est le Messie qui a perpétué l'immense figure de Händel. Mais tous les autres, Telemann, leur ami commun, Quantz, Matheson, Graun, Couperin, Rameau, Vivaldi, Corelli, ils sont tous passés à la trappe pendant un siècle ou un siècle et demi, sauf Bach. Bach était connu, et si la passion, selon saint Matthieu, a été, comme on nous le dit par erreur, redécouverte en 1829 grâce à Mendelssohn, ce n'était pas par ignorance, c'est parce qu'on n'en avait plus besoin et que c'était une œuvre liturgique. C'était une œuvre destinée aux vêpres du Vendredi Saint et non pas au concert. Ce qui a été décisif, ce fameux 11 mars 1829, quand le jeune Mendelssohn de 20 ans dirige la Saint-Matthieu à Berlin, à la Singakademie, c'est que ce n'est pas, c'est un jour de semaine, ce n'est pas dans une liturgie, ce n'est pas dans une église, mais dans une salle de concert avec une entrée payante. Ça veut dire que, tout d'un coup, la musique sacrée de Bach entre dans le répertoire du concert. Ça, c'est un acte décisif. Händel a toujours été dans le domaine du concert public avec des entrées payantes, quand même le bénéfice de ces entrées devait aller à des institutions charitables, ce qui s'est toujours passé. Voilà en quelques mots ce parallèle esquissé d'une façon extrêmement modeste et, pardonnez-moi, très terre-à-terre par rapport à tout ce qui a été dit magnifique ce matin.
Merci, merci beaucoup Gilles pour cet exposé tout à fait passionnant. Je voudrais juste vous poser deux questions très brèves auxquelles vous répondrez en 16 secondes chacune. La première, est-ce que selon vous, c'est précisément parce que cette œuvre, cet oratorio de Handel ne s'inscrit pas dans une liturgie spécifique qu'il a connu cette fortune mondiale très rapide ? Et d'une, et de deux, pourquoi est-ce que la France accueille si tard le Messie ? Parce que je crois qu'il faut attendre 1873 avec les concerts Lamoureux pour qu'il débarque en France.
Première question, ça me semble évident, c'est parce qu'il était déjà dans le domaine du concert. Or, les cantates et les oratorios de Bach se situent dans le cadre d'une liturgie très précise, dans un monde qui vient directement de la guerre de 30 ans, et au début de la Aufklärung, où tout d'un coup, il y a un tiédissement de la foi et de la pratique religieuse, les églises se vident, les liturgies de 4 heures, ça n'existe plus, on bâcle une cérémonie en 3 quarts d'heure, et c'est vrai chez les catholiques aussi, d'ailleurs, bon, à Salzbourg, avec l'évêque Colloredo, l'archevêque Colloredo. Donc il faut faire vite et donc elles n'ont plus leur place, elles ne correspondent plus à une aspiration du public. Bon. La deuxième question, ben, je crains malheureusement, je me sens très français, mais je connais nos défauts. On n'est pas très curieux et un peu routinier en France et on n'a pas cette curiosité qui a fait que d'autres pays se sont mis plus vite que nous à réécouter cette musique. Bon, je pense que c'est une des raisons. D'ailleurs, on est venu tardivement à Bach en France. Il y avait des petits groupes d'intellectuels, j'en connais, de ma propre famille, au 19e siècle, qui jouaient Bach, qui écoutaient Bach, qui étaient abonnés à la Bachgesellschaft, qui lisaient, qui déchiffraient. Mais c'était des milieux de professeurs, des petits milieux, de petits bourgeois. Mais le grand public, non, préférait le chalet d'Adolphe Adam ou Si j'étais roi, ou bon, ce type de divertissement-là. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à cela. Hein. Mais c'est venu tardivement jusqu'à cette Bachmania qui a sévi dans toute la fin du 19e siècle et à laquelle était associé Handel, bien évidemment.
Vous venez d'entendre la communication du musicologue Gilles Cantagrel qu'il a prononcée au Théâtre du Châtelet le 15 mars 2011 dans le cadre du colloque intitulé « Figure du Messie ».